voulons simplement te remercier pour ta présence au milieu de nous ce soir. Te remercier d'être là, Seigneur, par amour pour nous. D'être là parce que tu as quelque chose à nous communiquer ce soir. Seigneur, comme tu l'as fait hier, tu aimerais encore le faire aujourd'hui et même faire plus que ce que tu as fait hier. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la vérité de ta parole, car c'est dans la mesure où nous connaissons ta parole, c'est dans la mesure où nous demeurons dans la vérité de ta parole, qu'alors nous expérimentons la véritable liberté. Ce soir, nous voulons te laisser toute la place afin que tu nous parles. Ce soir, Seigneur, nous voulons déposer nos vies entre tes mains afin que tu continues l'œuvre que tu as commencée depuis le jour que nous t'avons rencontré. Ce soir, nous voulons que l'impact du ciel se fasse sentir sur l'atmosphère qui nous environne. Ce soir, nous voulons que ton nom et ton nom seul soient élevés par-dessus tout autre nom. Ce soir, nous voulons, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses te manifester glorieusement et que tu amènes toute pensée captive à l'obéissance à ta parole. Nous voulons donc soumettre, Seigneur, en ton nom, toute autorité qui ne serait pas de toi, tout esprit qui ne viendrait pas de ta part, nous voulons le soumettre à l'autorité de ta parole maintenant. Alors que ta parole sera prêchée, Seigneur, que rien ne puisse perturber ton auditoire. Et que chacun de nous, Seigneur, soit dans une attitude de réceptivité par rapport à toi. Merci de bénir ta parole, de la sanctifier dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir et une fois de plus, bienvenue à notre deuxième soirée dans le cadre de notre séminaire intitulé « Je bâtirai mon église ». Amen. Alléluia, vous êtes fatigués? Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui transforme nos faiblesses en... Alors ce soir, que le faible dise « Je suis ». Gloire au Seigneur. Et que celui qui a une voix cassée se mette à... crier. Ah ben très bien, gloire à Dieu, merci Seigneur, Dieu est bon, une fois de plus il est présent pour nous enseigner, il est présent pour nous instruire, car il n'a qu'un désir que chacun de nous le connaisse mieux, afin de mieux le servir, et le plus grand service, le service le plus noble qu'il soit, c'est celui que nous avons vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de son Église. Nous allons relire notre passage. Cette fois-ci, nous lirons simplement le verset 18, donc du chapitre 16 de Matthieu. Comme nous l'avons vu hier, donc tout notre séminaire va se fonder là-dessus. Et les différentes vérités, ou du moins les vérités principales exploitées, eh bien, s'articulent autour de ce verset. Verset 18, « Et moi, dit le Seigneur, je te le dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église, et que les portes du Hadès ou du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Puis un jour, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est un passage sur lequel nous avons déjà entendu pas mal de prédications, mais dans la plupart des cas, l'accent, lorsqu'il est question de prêcher à partir de ce passage, l'emphase est souvent mise sur la première partie, à savoir la partie que nous avons vue hier, c'est-à-dire le Seigneur qui bâtit son Église. En effet, depuis plus de 2000 ans, le Seigneur est à l'œuvre sur cette terre. Il est en train de construire son Église. Il est en train d'appeler les hommes de toutes les races, de toutes les langues, de tout peuple, de toutes les couleurs et de toutes les cultures, il les appelle à la repentance, et puis ensuite, il les introduit dans son Église. Donc, celui qui construit. Amen. Mais, cette vérité relative à l'œuvre de Dieu ici-bas, concernant la construction de son Église, n'est pas la seule vérité principale. Et ce soir, je voudrais que nous puissions nous attarder sur la deuxième partie de la déclaration du Seigneur et toujours en rapport avec cette œuvre de construction, à savoir « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire contre l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire en utilisant cette expression, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église? Eh bien, il s'agit simplement du contexte dans lequel le Seigneur allait accomplir ce travail de construction. Il s'agit du contexte dans lequel il allait bâtir son Église. Et dès le départ, il a voulu montrer à ses disciples que ce travail de construction, ici-bas, de sa maison, de son habitation en esprit, n'allait pas se faire sans difficulté. En effet, l'Église allait être confrontée à toutes sortes de forces qui lui seraient hostiles et qui l'empêcheraient de pouvoir avancer selon la volonté de son constructeur. Donc, quand nous parlons, ou quand le Seigneur parle des portes du séjour des morts qui n'allaient pas prévaloir contre son Église, eh bien, il nous montre déjà le cadre dans lequel il allait faire accomplir ce travail extraordinaire de bâtir son Église. C'est dans un monde infesté de toute force du mal, dans un monde sous l'emprise des puissances démoniaques, que le Seigneur allait bâtir son Église. Et nous allons examiner ensemble trois vérités importantes dans cette déclaration. Il y a d'abord, la première chose que nous allons aborder ensemble, c'est de voir ce que le Seigneur a voulu dire par les portes. Qu'entendons-nous par porte? C'est toujours mieux de replacer les choses dans leur contexte biblique pour mieux le comprendre. Car lorsque nous approchons la Bible, eh bien, nous n'approchons pas la Bible comme si nous n'avions pas d'arrière-plan. Voyez-vous, ce que nous sommes, eh bien, finit toujours par influer sur notre démarche vis-à-vis de la Bible. Et quand nous, on parle de la porte, eh bien, généralement, on pense à cette ouverture pratiquée dans un mur, oui ou non. En effet, c'est une porte. Voyez-vous. Et ça a existé même à l'époque, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, où il y avait des portes, c'est-à-dire cette ouverture qui permettait de passer de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, la première chose que nous allons examiner ensemble, c'est celle-là. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire à son disciple en utilisant cette notion des portes? Cette réalité, cette catégorie qui existait déjà, des portes. La deuxième chose, nous allons examiner ensemble ce qu'il a voulu dire par séjour des morts. Ou le Hadès. Grec. Au fait, c'est la traduction du Hadès grec, ou alors du Sheol hébreu, que le Seigneur utilise en cet endroit. Et puis ensuite, nous allons voir maintenant la combinaison de ces deux. Les portes du séjour, pas simplement prendre les portes de manière isolée, ou prendre le Hadès, ou le Sheol, ou le séjour des morts, eh bien, de manière isolée. Ensuite, nous allons mettre ces deux vérités ensemble pour essayer de comprendre ce que le Seigneur a voulu dire et aussi apprécier ce verbe prévaloir. Voyez-vous, que nous trouvons dans nos versions, notamment dans ma version ici de Louis II, mais d'autres versions utilisent d'autres verbes, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur mon Église, etc. Ça va? Voilà, prêt pour le décollage? Bien. Nous allons commencer par cette notion des portes. La Bible a beaucoup à nous apprendre en ce qui concerne cette réalité qu'est la porte. La porte, je pars un tout petit peu de l'Ancien Testament. N'oubliez pas que Jésus était d'arrière-plan juif, hein, n'est-ce pas? Et que la Torah, eh bien, nous vient des Juifs ou des Hébreux. Et quelquefois, c'est toujours mieux de se tourner vers la langue ou les langues dans lesquelles tous ces concepts nous viennent pour mieux les apprécier. En hébreu, donc, c'est Sha'ar. Sha'ar. Voilà. Là, vous aurez appris au moins un mot. Donc, ce mot-là, char, traduit en français par porte, revient plus de 300 fois dans l'Ancien Testament. Et le plus souvent, ce mot est utilisé pour désigner la porte d'une ville. Donc, porte, ce n'est pas simplement une ouverture pratiquée dans le mur, dans un mur, pour permettre aux uns d'entrer, aux autres de sortir. Il y a un deuxième sens, et c'est le sens que ce mot a, du moins dans l'Ancien Testament, dans la plupart des cas, eh bien, il s'agit de la porte d'une ville. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller en Europe, dans les grandes villes, vous verrez qu'il y a toujours des endroits qu'on appelle portes. Et la plus célèbre porte, c'est celle de Namur à Bruxelles, puisque les Congolais, avec beaucoup de conviction, l'ont débaptisé et l'ont baptisé Matongé. Donc, ce qu'on appelle Matongé, c'est la porte de Namur. Ça veut dire tous ceux qui accédaient autrefois à cette ville de Bruxelles dans l'ancien temps, quand les murs étaient protégés par des remparts, eh bien, qui venaient par Namur, accédaient par la porte de Namur pour arriver dans Bruxelles. Donc, il n'y en avait pas que la porte de Namur, il y a là, vous trouverez la porte d'Anvers, etc. Et donc, c'est une porte pour permettre aux gens d'entrer dans la ville. Et les villes, à l'époque, ce n'est pas comme Kinshasa aujourd'hui. Hein. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Hein. Quand on parle de ville à l'époque, ça correspondrait aux gros villages, à nos gros villages aujourd'hui. Hein. Donc, il n'y avait pas de ville avec 10 millions d'habitants comme Kinshasa. Voilà. Donc, deuxième sens, et le plus souvent, c'est pour désigner l'entrée dans la ville. À cet effet, j'essaie un tout petit peu de relever les différentes portes de la ville de Jérusalem à l'époque de la reconstruction, c'est-à-dire à l'époque de Néhémie. Je pourrais vous donner rapidement cela pour que vous compreniez. Il y avait par exemple, vous aviez la porte d'Éphraïm, la porte de l'angle ou du tournant qui donnait vers le nord de Jérusalem. Vous aviez la porte de la vallée, la porte de Zo, je vous donnerai les références après, la porte de poisson, la vieille porte, la porte de brebis, qu'on trouve même dans le Nouveau Testament, hein, du reste comme la belle, qui donnait accès au temple. Donc c'est par là que les Juifs entraient, c'est-à-dire les Israélites. N'oubliez pas qu'il y avait de non-Juifs qui étaient convertis, qu'on appelait soit les prosélytes ou les craignants Dieu. Ceux-là ne pouvaient pas accéder au temple par cette porte-là. Il était donc réservé uniquement aux Israélites, donc la porte dite la belle. Donc vous aviez la porte de la prison, peut-être qu'elle donnait sur une prison. Vous aviez la porte des eaux, la porte de la source, la porte du fumier, etc. Donc c'était toutes des portes qui permettaient à tous ceux qui venaient de l'extérieur de pouvoir accéder à la ville de Jérusalem. C'est très clair? Voilà. Donc je vais remettre ça. Je vous donnerai, pour ceux qui prennent de notes, les références. C'est dans Néhémie, hein. Et vous verrez tout ça. Donc, la porte, lieu pour entrer, ouverture pour entrer dans la ville. Mais avec le temps, la porte est devenue une partie importante en ce qui concerne le système de défense que constituaient à l'époque les remparts. C'est-à-dire on ne construisait pas les portes simplement pour entrer dans la ville. Mais les portes, c'était aussi un système de défense. Vous avez déjà vu toutes ces films sur les Romains, sur les peuples anciens ou des documentaires, eh bien, quand on attaquait une ville, on voulait prendre la porte ou les portes. Car une fois qu'on dominait les portes, eh bien, la ville n'avait plus de... On pouvait alors accéder à la ville et prendre la ville. Donc, la porte, comme système de défense, pour empêcher à l'ennemi d'entrer, mais la porte, c'est aussi là que les gens se rencontraient pour bavarder. Les gens se rencontraient
pour faire du commerce. Les gens se rencontraient pour se livrer à toutes sortes d'activités. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, si nous allons à la porte de Namur, ben nous trouverons beaucoup de nos compatriotes lamatongais dans des bars, dans toutes sortes d'activités. Voilà. Ils se retrouvent pour parler politique, comme on aime beaucoup la politique. Ils se retrouvent pour parler du sport, ils se retrouvent pour parler de ceci, certains boivent, certains, eh bien, se livrent à toutes sortes de commerces. Vous voulez trouver des pagnes, vous allez à Matongues, donc à la porte de Namur, n'est-ce pas? Donc la porte aussi, comme lieu où les gens se retrouvent, un lieu où il y a la vie sociale, un lieu où on fait du commerce, un lieu, eh bien, où toutes sortes d'affaires se traitent. Mais la porte, c'est aussi le symbole de la puissance d'une ville. C'est ainsi que nous trouvons dans Deutéronome. Vous notez simplement, je vais lire le passage pour vous. Deutéronome 16 et 18, il nous est dit, « Tu te donneras des juges et des secrétaires littéralement dans tes portes. » Donc le jugement devait s'exercer où? À la porte ou dans les portes. Donc, porte comme lieu où les autorités chargées d'appliquer le droit se réunissaient et émettaient de jugements. Pouvoir judiciaire. Nous avons vu pouvoir économique, oui ou non. Parce qu'à la porte, on fait quoi? On fait du commerce. Il y a toutes sortes d'institutions, parce qu'à la porte, on se livre à tout. Deutéronome 17:5 nous dit, tu feras alors sortir aux portes de ta ville, l'homme ou la femme qui a commis une mauvaise action. Donc, un lieu où on exerce le jugement, où on rend la justice. Et tout cela, eh bien, va contribuer, si vous voulez, au rayonnement de la ville. Ça va contribuer à la puissance de la ville. En d'autres mots, les portes sont les symboles du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir judiciaire, bref, de tout ce dont l'homme a besoin, toutes ces institutions pour une bonne vie dans la cité. Vous êtes toujours avec moi. Nous pouvons avancer. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez que les portes ou la porte, c'est plus qu'une ouverture. C'est plus qu'un quelque chose pratiqué soit dans l'enceinte d'une ville, pour permettre aux gens d'entrer, ou une ouverture dans un mur, mais la porte va au-delà. C'est le lieu de la vie sociale, c'est le lieu de la vie politique, c'est le lieu où ont lieu toutes sortes d'activités commerciales et économiques, c'est le lieu où on exerce le jugement, c'est le lieu où on dit le droit, c'est le lieu où on applique toutes sortes de choses. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir, apprendre des portes. Maintenant, c'est clair. Donc, quand Jésus parle des portes, il ne parle pas d'une réalité statique, comme il y en a là. Vous entrez, vous ressortez, la porte est toujours là, oui ou non? Eh bien, nous allons voir qu'au-delà de cette réalité statique, il y a aussi une réalité dynamique. Car nous verrons, soit aujourd'hui ou demain, que dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20, après le dernier jugement, eh bien le Hadès, le séjour des morts, ainsi que la mort, sont liés et jetés dans les temps de feu. S'ils sont liés, donc c'est plus qu'une ouverture, oui ou non? S'ils sont jetés dans les temps de feu, ben si c'était des portes de bois ou de fer, pourquoi les jeter dans les temps de feu? Il y a là, mes amis, une réalité spirituelle dont nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce que le Seigneur a voulu dire. C'est une réalité dynamique, la porte, c'est-à-dire, quand on fait du commerce, ce n'est pas quelque chose de statique, oui ou non. C'est une réalité dynamique, puisque le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir économique, bref, tout ce dont la cité a besoin, eh bien tout cela se traite au niveau de la porte. Voilà donc ce que nous pouvons, dans un premier temps, retenir en ce qui concerne la porte. C'est clair. Donc, quand la Bible parle des portes, c'est plus qu'une ouverture. C'est plus que une réalité qui nous permet de passer de l'intérieur vers l'extérieur ou vice-versa. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur a dit à Abraham. Lorsqu'Abraham, sur le mont Morija, va faire ce que Dieu attendait de lui, c'est-à-dire aller livrer son fils en sacrifice, le Seigneur lui dit, « Abraham, Abraham !» Il répond, « Mais voici !» Il lui dit plein de choses et puis il lui dit, « Puisque tu as fait cela, voici, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance qui deviendra comme les étoiles, comme le sable ou les étoiles du ciel. » Et puis ensuite, il dit, « Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Alléluia. Littéralement. « Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. » Ne vous étonnez pas que les descendants d'Abraham, par la promesse, soient ceux qui manipulent les finances. Vous pouvez le retrouver partout. C'est une parole qui a été prononcée. « Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » C'est un petit peuple Israël, mais qui reste au cœur des nations. Donc la porte, vous voyez. Et dans certaines versions, on dit, ta descendance contrôlera tes ennemis. Ta descendance, vous pouvez trouver ça dans Genèse 22, ta descendance combattra tes ennemis ou fait quelque chose. Mais littéralement, contrôlera. Alléluia. Possédera. Car si vous possédez la porte, vous contrôlez la ville. Alléluia. Si vous possédez la porte, la porte, eh bien toutes ces forces, toutes ces activités, tout ce qu'il y a au niveau de la porte, vous sont soumis, alors vous pouvez contrôler la ville, la cité. Et nous allons voir que le monde est une vaste cité. C'est une sorte de nécropole à cause du péché. Et un vaste cimetière dans lequel le Saint-Esprit est à l'œuvre pour ramener les gens à la vie et les introduire dans l'Église. Alléluia. Donc voilà ce que nous pouvons dire dans un premier temps concernant les portes. Alors le Hadès, enfin le Hadès, hein, comme ça c'est mieux. Le Hadès ou le séjour de mort, qu'est-ce qu'on entend par là? Une fois de plus, le Seigneur n'a pas inventé ce terme. Le Hadès, c'est l'équivalent hébreu du Sheol. Donc, ces deux termes, Hadès ou Sheol, sont traduits dans notre langue ou dans nos versions françaises de la Bible par séjour des morts. Qu'est-ce que c'est un séjour? Je vous pose la question. Si quelqu'un vous dit, voilà, vous rencontrez quelqu'un, une vieille connaissance, vous lui dites, ah mais tiens, comment ça va, etc. Il dit, oh là là, de toute façon, bon, je suis ceci, je suis en séjour à Kinshasa. Quelle conclusion allez-vous tirer? Qu'il habite Kinshasa? Il est là pour? Mais il a sa destination finale. Voilà. Donc, séjour des morts. Il y a aussi, par rapport à ce terme, tant à dire, à propos de cette réalité, que le Hadès ou le Sheol, ou le séjour de mort. Pour faire très bref, parce que ce n'est pas le but de vous faire tout un cours d'eschatologie pour ceux qui ont fait la théologie, mais je voudrais simplement partager avec vous quelques vérités qui vont nous permettre de comprendre ce qui va suivre. Quand nous allons mettre les deux expressions ensemble, et tout cela à la lumière du verbe « prévaloir », alors nous pourrions comprendre ce que le Seigneur a voulu dire concernant le contexte dans lequel son Église allait évoluer, mais aussi le contexte dans lequel il allait bâtir son Église. Le séjour des morts est décrit dans l'Ancien Testament comme le lieu où vont tous les morts. Tous ceux qui quittent cette terre, c'est-à-dire à la mort, à la séparation de l'âme d'avec ce corps charnel, eh bien, tout cela prenne le chemin qui conduit tout droit vers ce que l'Ancien Testament appelle le Sheol ou le séjour de mort. Donc, tous ceux qui meurent, croyants comme incroyants, nous sommes dans l'Ancien Testament, hein. Écoutez-moi bien, croyants comme incroyants, quand on meurt, on descend tout droit dans le séjour de mort. Donc, car, vous le savez, les âmes continuent à exister après la mort. Attention, l'homme garde toute sa mémoire, toutes ses facultés, après avoir quitté ce corps de chair. Hein. Il ne faut pas croire qu'à la mort, tout s'oublie, l'homme comme de la vapeur, et puis il part, et puis disparaît comme ça, et puis ni vu, ni connu, tout retourne à la poussière. Pas du tout, hein, mes amis. C'est d'ailleurs là que le compte à rebours commence. C'est pourquoi nous devons faire très attention quant à la manière de gérer la vie que nous avons. Quant à la manière de gérer le souffle de vie qui nous anime. Nous n'en sommes pas responsables. Il nous le prête. Et un jour, il nous demandera des comptes. Et notre manière d'être aujourd'hui, notre manière de vivre, notre comportement, notre conduite, nos pensées, etc., vont déterminer où nous passerons notre éternité. La Bible est claire. Dès lors que quelqu'un quitte ce corps de chair, il descend. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle le Sheol, le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, les gens gardent leur mémoire. Dans le séjour des morts, ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Ils sont conscients d'avoir rejeté toutes les occasions que le Seigneur leur avait données de se convertir. Ils seront conscients de leur folie, d'avoir privilégié le bonheur temporel, et ce au détriment de leur éternité. Ils seront conscients, ils vont, mes amis, s'en prendre à eux-mêmes en disant, et pourtant, j'habitais à quelques encablures de la borne, j'entendais les gens de la borne crier Jésus tout le temps, je m'étais dit, mais c'est des fanatiques. Ils penseront à tout ça. Hein? L'homme est conscient, il est conscient, voyez-vous, c'est là la chose la plus terrible. La chose la plus terrible pour une âme, la plus horrible qui soit. Mes amis, ce n'est pas de manquer à manger ici sur terre, de manquer de vêtements, etc. Ne pas manger, ne pas avoir à manger, vous trouverez toujours quelqu'un, un bon samaritain, qui vous partagerait son repas. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous donnerait ce dont vous avez besoin. Mais mes amis, la chose la plus horrible et la plus terrible qui soit pour un homme, c'est de passer dans l'éternité sans avoir eu l'occasion de rencontrer Jésus de Nazareth. Il aura beau rencontrer une religion. De l'autre côté, il n'y a qu'un seul nom. Alléluia. Le nom de celui qui a dit, je suis vivant, j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres mots, je tiens les clés de la mort et du Hadès. C'est celui-là qui seul dirige, a autorité sur tout cela. Gloire à Dieu. Alors, n'ayez pas peur. Lorsque le moment viendra de partir, personne ne peut se tromper d'adresse. Quand vous vous tromperez d'adresse, vous commencez à vous diriger tout droit vers le Sheol. Il dit, non, mon fils, c'est là, je t'attends là. Pas celui qui a les clés, non? Tu as la marque de mon sang sur ton âme. Voilà, je dispose ce royaume pour toi et pour tous ceux qui m'ont suivi. Bref, les gens ne disparaissent pas après la mort. Hein. Vous savez, il y a toutes sortes de philosophies matérialistes aujourd'hui, très réductionnistes par rapport à l'approche de la vie, et qui limitent, qui réduisent la vie à simplement ce vase de terre, ce corps d'argile, de chair. À la mort, tout disparaît. Locuta, faux. C'est après la mort que tout commence. La vie se poursuit outre-tombe. Nous avons des preuves. Sur la montagne du Tabor, où le Seigneur a amené trois de ses disciples, et où il va se transfigurer, il va être transfiguré. Eh bien, quelque temps après, il y a deux personnes qui apparaissent. Moïse et qui? Mais ils étaient déjà morts depuis des siècles. Hein? Pour Dieu, ils sont encore vivants. Ils apparaissent. Pierre, qui a été élevé dans la tradition juive, comme du reste les autres, André, Jacques, et plus Jacques et Jean, ils ont toujours entendu parler de Moïse et d'Élie. Vous vous rendez compte ce jour-là? Pierre est là, il dit, regarde Jean, il dit, petit. Les qui? Est-ce que Zomon ou Zomon? Est-ce que tu vois ce que je vois? Il dit, mais grand frère, je vois. C'est Moïse. C'est Moïse là. Donc il a amené nos ancêtres jusque dans la terre promise. Et puis Élie, le prophète, qui avait été enlevés dans un char de feu. Pour Dieu, ces gens sont vivants. La vie ne s'arrête pas à la tombe, mes amis. La vie se poursuit autre tombe. Voilà pourquoi il vaut la peine d'être vécu. Car le meilleur nous attend là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'avoir nos yeux fixés sur lui, de placer nos affections sur les choses d'en haut. Car les choses de la terre, nous pouvons en jouir, mais tôt ou tard, il faudra bien que nous partions. Il y en a qui se sont frappés la poitrine dans cette ville comme si elle leur appartenait. Quand ils passaient, on leur faisait des courbettes. Aujourd'hui, ils sont où? Ils ont été mangés par la même terre de Kinshasa. Et puis nous sommes arrivés, nous passerons aussi. Voyez-vous? Alors c'est mieux de voir là où nous allons et d'investir davantage dans le royaume de Dieu, de transformer tout ce que nous avons en des bénédictions qui demeurent éternellement. Vous avez le cas de, oui, Moïse, Élie. Pour Dieu, tout cela existe. D'ailleurs, il dira à Moïse, avant que Moïse meure, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob. Le Dieu, pour lui, tous ces gens-là sont. Pour nous, ils sont morts. Mais Abraham est vivant. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu arrive à honorer nos prières même après que nous soyons partis. Parce que nos prières restent. J'aurai un enseignement là-dessus. Tout ce que nous prêchons, c'est comme des mémoriaux qui se dressent devant Dieu. Alléluia. C'est comme des monuments vivants que nous dressons. Nous allons partir, mais ces prières vont rester. Et tôt ou tard, il va les exaucer. C'est pourquoi ne te décourage pas. Alors que tu pries pour quelqu'un depuis de nombreuses années, la personne ne se convertit toujours pas. C'est rien. Continue. Quand bien même tu arriverais au terme de ton voyage et que tu partirais dans l'éternité, celui à qui tu as adressé ces prières s'appelle « Je suis ». Même après ton départ, il pourra honorer. Il pourra enfin rencontrer la personne. Donc, le Sheol, pour revenir rapidement à la notion de Sheol, ce Sheol-là, lieu où descendent tous les morts, nous sommes encore dans l'Ancien Testament, est constitué de deux parties. Il y a une partie qui est réservée aux impies, à tous les rebelles, tous ceux qui rejettent Dieu, les idolâtres, tous ceux qui ne l'ont pas connu, quand ils s'écorent, ils descendent dans cette partie où ils sont déjà en proie à des tourments atroces. Le Seigneur nous a laissé un enseignement dans la parabole de Lazare et du riche. Hein. Vous pouvez lire cela dans Luc 16. Et vous allez voir, Lazare, aussitôt parti, se retrouve dans le sein d'Abraham. C'est aussi le nom de ce qu'on appelle le séjour de mort, mais dans l'autre partie, tandis que le riche, lui, s'en va, aussitôt il est accueilli par Dieu, par ceux qu'il avait servi. Il dit, viens ici, tu vas aller où? Il a dit, mais je fais quoi ici? Oui, tu fais quoi? Tu es venu, c'est fini. Alors il commence à souffrir. C'est là qu'il se soucie de ses frères. Il dit, Père Abraham, c'est pas possible. Oh, si je l'avais su, s'il le savait. Il avait la loi, il avait le prophète. Mais il a privilégié le bonheur matériel, le bonheur temporel. Il a privilégié sa vie d'ici-bas, ses conquêtes féminines, des femmes à gauche, à droite. Il est remorqué, volé. Vous voyez, il s'est pavané un but de lui-même, la main dans la poche, considérant que les autres étaient là. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? Si c'est votre cas de grâce, je vous en supplie. Vous n'êtes qu'un vase de terre. Le souffle de vie qui vous anime ne vient pas de vous. Si vous avez une position sociale, rendez grâce à Dieu. Que ça ne soit pas une occasion de mépriser les autres en disant, vous savez, j'ai deux doctorats derrière moi. Oui, tu les as. Et ensuite? Le jour de ton départ, on peut peut-être le mettre sur ta tombe pour orner un peu l'épitaphe, la pierre tombale. Et quand la pluie viendra, et quand le vent soufflera, Et de l'autre côté, il n'y a pas de diplôme. Ceux qui t'attendent là vont dire, non, mais écoutez, moi, non. Monsieur, viens. Bienvenue. Tu commences à regarder à gauche, à droite, oh, moi, Mbouye où? Tu commences à demander après, moi, Mbouye, ta femme. Quand elle allait prier, tu étais la première à dire, oui, mais finalement, tu me fatigues, si c'est comme ça, je vais partir. La pauvre, elle a supporté, elle a tout fait. Elle s'est humiliée jusqu'au bout. Jusqu'au sacrifice suprême. Et puis Dieu, dans sa grâce, dit, ben, toi, le petit bandit, viens. Et quand tu pars, finis. Donc, l'autre partie du Sheol est réservée aux bienheureux, à ceux qui ont rencontré le Seigneur. Nous sommes encore dans le contexte de l'Ancien Testament, qui sont partis avec une espérance. N'oubliez pas, je l'avais dit lors de notre premier séminaire, la première promesse messianique se trouve dans Genèse 3:15. La postérité de la femme, dit le Seigneur, s'adressant au serpent, le diable, t'écrasera la tête. N'est-ce pas? La postérité de la femme. Nous naissons tous dans le péché. Mais Dieu, dans son amour, a tout fait pour montrer à l'humanité le chemin de la réconciliation. Et c'est comme ça qu'il a commencé à parler, qu'il a suscité un homme, à qui il a suscité une postérité, et par cette postérité, des prophètes sont venus, et puis par ces prophètes, un peuple est venu, et par ce peuple, le Messie est arrivé. Amen. Alléluia. Donc tous ceux-là, les Abraham et les autres, ont vécu avec la foi qu'un jour, le Messie viendrait. Ils sont descendus dans le Sheol avec cette espérance. Quand ils sacrifiaient les animaux de l'Ancien Testament, ce n'était pas parce qu'ils avaient vu les autres peuples le faire. Mais c'est Dieu qui l'avait leur demandé, oui ou non. Donc ça veut dire qu'ils avaient foi dans cette parole. Et ils savaient que le sang qui était versé n'était que l'image du véritable sang qu'allait verser des siècles plus tard le Messie de Dieu. En d'autres mots, pour eux, la croix était un événement futur. À chaque fois qu'ils observaient la loi de Moïse, ils manifestaient leur confiance, selon laquelle, ou leur foi, selon laquelle le Messie viendra un jour et il payera le prix de leur péché. Et puis le Messie est venu. Pour nous qui vivons aujourd'hui, eh bien la croix est un événement passé, oui ou non? Et pourtant nous sommes sauvés. Eux, la croix était devant. Alléluia. Pour nous, elle est derrière. Que ce soit ceux qui sont partis avant nous, que ce soit ceux qui sont venus après, l'œuvre de la croix, mes amis, a des conséquences cosmiques. Je vais en parler un tout petit peu. Il n'y a rien dans toute l'histoire de l'humanité qui puisse équivaloir l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est une chose terrible que de mépriser le sang du Christ. Alléluia. C'est la seule œuvre qui rend l'homme capable de pouvoir revenir à son Créateur. Donc, Jésus lui-même va employer ces deux expressions, Sheol ou Hadès, dans cette parabole de Lazare et du riche, pour montrer aux hommes que la vie se poursuit outre tombe. Que le choix nous faisons ici, eh bien, nous en porterons les conséquences dans l'au-delà. Si nous faisons des choix pour Dieu, eh bien, dans l'au-delà, c'est Dieu qui nous accueillera. Et nous serons recueillis, pour utiliser une expression de l'Ancien Testament, dans le sein d'Abraham, ce qu'on appellera en d'autres termes, à partir du grec, le paradis, ou du perse, paradis. Voyez-vous? Eh bien, Christ en a parlé. Pour faire bref, dès que quelqu'un quitte cette terre, il prend le chemin de l'éternité, eh bien, il va descendre dans le Sheol. C'est-à-dire, dans le séjour de mort. C'est le paradis pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui le connaissaient. C'est ce que le Seigneur a promis au brigand sur la croix. Il lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi où? C'est la deuxième partie du séjour de mort. J'insiste là-dessus, parce qu'avec la mort du Christ, tout va changer. Amen. Donc, pendant que le Seigneur promet le paradis à ce brigand qui allait mourir et qui croit en lui, in extremis, Et bien d'autres, par la même occasion, passaient dans l'éternité sans avoir eu cette grâce. Ceux-là, eh bien, descendent dans l'autre partie en gardant leurs facultés, en gardant leur mémoire, souffrant déjà, car le Sheol est un lieu de souffrance et d'égrincement de dents. Et dans ce Sheol ou ce Hadès, c'est un séjour. En d'autres mots, c'est une prison préventive. Ah. C'est une prison préventive. En attendant le jugement dernier. Et afin de se retrouver définitivement, éternellement, dans l'enfer qui a été prévu, ou en enfer qui a été prévu à cette occasion. Donc, ils sont là de manière provisoire, parce que Dieu ne peut pas envoyer qui que ce soit en enfer sans lui avoir dit pourquoi. C'est ainsi qu'il y aura des livres qui seront ouverts en ce jour-là, au dernier jour. Il sera assis sur un trône blanc. Pour le moment, il est sur le trône de la grâce, alors il faut en profiter. Pour le moment, il agit comme sauveur, alors il faut en profiter. Car en ce jour-là, le même Seigneur, eh bien, s'assiera sur le trône du jugement. Ça ne sera pas un jugement pour dire, bon voilà, tu as fait quoi? Ah Seigneur, tu vois d'ailleurs ce jour-là, ce n'était pas de ma faute. Ah ok. Et puis ensuite, même oui, Jean-Luc était là. Ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas un jugement pour permettre à certains d'avoir une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. C'est aujourd'hui ou jamais. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il n'y a pas de possibilité de salut après la mort. Mes amis, réveillons-nous. Ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas aveugler, mes amis, par tous ces enseignements qui n'ont aucune base biblique. On organise des messes en faveur des morts. On pense que ça va changer le destin. Pas du tout, mes amis. Pas du tout. Quelque part, ça conforte même certains dans leur impiété, dans leur vie déréglée, dans leur vie d'agitation charnelle et mondaine. Ils se disent, ah, ben tout compte fait. Mon oncle, qui est le neveu de ma tante par alliance, n'est-il pas évêque? Il viendra faire une grosse messe. Et de toute façon, Dieu entendra. Mon ami, si tu te fais ce genre d'illusion, tu t'es fabriqué un monde fantasque, illusoire, il est grand temps que tu sortes de ton illusion. Ton oncle, le cousin germain, je ne sais de quelle tante, n'a aucun pouvoir de changer le destin de quelqu'un après sa mort. Il n'y a que Jésus et Jésus seul. Alléluia. Et comme nous allons le voir, lui seul est descendu dans le séjour des morts. Il est allé proclamer. Quoi? Ça, c'est ça le problème. Pour les amis qui lisent la Bible, et notamment le Nouveau Testament, dans Pierre, on dit qu'il est allé prêcher aux esprits emprisonnés dans le séjour des morts. Ça, c'est une mauvaise traduction. Il est nulle part qu'il ait dit qu'il est allé prêcher l'Évangile, puisqu'il se contredirait alors. Oui ou non? Ben oui. Parce qu'il a dit aux Juifs, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Il aurait pu leur dire, oui, vous allez mourir dans vos péchés, mais il y a encore moyen, je descendrai là. Le problème, c'est le terme kérousso, qu'on a traduit par prêcher. Certes, dans certains passages, ce mot veut dire prêcher la parole. Et quelquefois, il n'y a pas toujours un complément d'objet direct. Le fait simplement de dire prêcher, eh ben, ça suppose prêcher quoi? La parole. Or, ici, c'est le même verbe. Mais le contexte nous montre qu'il n'a pas été prêché à tous ces esprits impies qui étaient emprisonnés. Il est allé simplement proclamer. Qu'a-t-il proclamé? Sa victoire sur la mort. Car même là, il était important qu'il sache que celui qui avait été promis lorsque l'homme était tombé dans le péché, celui-là est venu. Celui-là vient de descendre, celui-là vient de remporter la victoire. Et puis il est allé proclamer à l'instar d'un héros. Vous savez, en Europe, au Moyen-Âge, il y avait celui qu'on appelait le héros, A-U-T à la fin. Le héros, c'est pas le héros avec O-S. Le héros, c'était un proclamateur.
Quand le roi devait se déplacer dans une ville, le héros le précédait et il allait proclamer « Attention, nettoyez vos rues, arrangez ceci, car le roi va venir, le roi va faire ceci. » Il était investi d'un certain pouvoir. Il parlait au nom du roi, donc on ne pouvait pas l'arrêter. Donc, c'est ce même mot, voyez-vous, qui est utilisé. Il est allé proclamer sa victoire. Il est allé proclamer que désormais, eh bien, lui a vaincu. Et puis il est sorti. Et nous allons le voir, le seul. Le seul. Et ça vaut la peine de rester attaché à lui, mes amis. Il n'y a personne. Mahomet est parti, n'est jamais revenu. Bouddha, n'en parlons pas. Certains ici, il y a quelques années, avaient dit qu'ils allaient mourir et ressusciter. Quelle folie! Ils sont morts. À travers les âges, les gens ont dit, je vais mourir et revenir. Mais ils ne sont jamais revenus. Car personne n'est plus fort que la mort. Personne ne peut par sa propre vertu, par sa propre force, mes amis, briser les liens de la mort. Il n'y a qu'un seul dont la Bible parle. Et au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a pris la parole, s'adressant à cette multitude d'hommes et de femmes rassemblées à Jérusalem à l'occasion de la grande fête de Pentecôte, il a prêché le Christ. Et quand il est arrivé au point où Jésus a donné sa vie pour nous et l'humanité, il leur dit ceci, Dieu l'a ressuscité en le déliant des liens de la mort, en le délivrant des liens de la mort, parce que il était impossible que ce lien le retienne. Il est descendu là-bas, dans ce Hadès, qui non seulement est une réalité dynamique, mais aussi un lieu, même le Hadès n'a pas pu le résister. Il est parti, il est allé chercher tous les croyants de l'Ancien Testament, et Paul, écrivant aux Éphésiens, nous dira, ressuscité, il est monté en amenant les gens. Ce sont tous ceux qui sont morts dans l'espérance que le Messie viendra un jour. Il est allé les chercher là-bas, mes amis. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Les liens de la mort ne pouvaient pas. Le Hadès était incapable. C'est voilà pourquoi au troisième jour, eh bien, il est sorti vainqueur. Mais Matthieu nous dit, quand Jésus a donné sa vie à la croix, la terre a tremblé. Il y a eu des ténèbres, mes amis. Le soleil n'a pas pu supporter. C'est infamie de la part des créatures. Le soleil a caché sa face. Quelle scène terrible que le Créateur soit pendu entre ciel et terre. Et la Bible nous dit, il y a eu tremblement de terre, certes. Plusieurs corps des saints sont sortis de leur tombeau. Ils ont été aperçus à Jérusalem. Mes amis, la mort du Christ, sa glorification a eu un impact non seulement ici-bas, non seulement dans tout l'univers, même dans le séjour des morts. Ceux-là sont sortis et il les a amenés avec lui. Et désormais, tous ceux qui meurent en lui ne descendent plus dans le Sheol. Tous ceux qui meurent en lui vont auprès du Seigneur. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai hâte de quitter ce corps pour être avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, je préfère ainsi m'en aller pour être avec le Christ. Et il ajoute dans 2 Corinthiens 5, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Désormais, tous ceux qui meurent, ils ne sont plus esclaves du séjour des morts. Ils vont tout droit dans le bras du Seigneur. Ils entrent dans le repos en attendant la résurrection. Alléluia. Donc voilà ce que nous pouvons dire à propos du Hadès. C'est le lieu où descendent les vivants? Je vous pose la question. Qui descend dans le Sheol ou dans le Hadès? Tous ceux qui meurent, voilà, sans Christ, avec leurs péchés, ils vont tout droit là-bas, sans escale. Donc, et en proie au tourment. Voilà ce que la Bible nous dit concernant le Hadès. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Ce n'est pas le ciel qui appelle, hein? Je suis convaincu. Donc, tous ceux qui descendent se retrouvent dans le Sheol, et le Sheol est provisoire, comme nous l'avons vu. Le séjour des morts, c'est un séjour des morts, il est provisoire.
Donc, il va cesser d'exister au moment du jugement dernier. Je vous ai donné la référence d'Apocalypse 20. Eh bien, où il nous est dit que la mort, le séjour des morts, seront déversés dans l'enfer éternel, ainsi que ceux qui n'auront pas eu la vie de Christ en eux. Voilà donc ce que nous pouvons dire à propos du Hadès ou du séjour des morts. Nous avons parlé des portes, oui ou non? Donc c'est plus qu'une ouverture, c'est toute une réalité dynamique. C'est le lieu où foisonne la vie économique, la vie politique, la vie, dans toutes ses formes. Donc, dans ce cas alors, si le Hadès est ce que nous venons de voir d'après la Bible, alors le Hadès tel que nous le trouvons dans Matthieu 16, verset 18, n'a rien à voir avec le lieu où vont tous ceux qui quittent la terre et qui partent après la mort. Ça n'a rien à voir avec l'église que Jésus bâtit, puisque l'église de Jésus est constituée non pas de morts, mais des... Puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le... Donc, si l'église est concernée par les vivants, nous pouvons tirer à ce niveau une première conclusion, c'est que le Hadès, tel que nous le trouvons là, n'a rien à voir avec le Hadès dans son sens de lieu où descendent tous les morts. Parce que l'Église n'a que faire des morts. Hein? Oui ou non? Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, dans ce cas, puisqu'il ne peut pas y avoir contact entre les morts et les vivants, donc le séjour des morts là n'a rien à voir avec la réalité qui va nous préoccuper maintenant. Alors, la question, c'est quoi le Hadès? Alors, pour mieux comprendre ça, il faut de nouveau replacer tout cela dans le contexte, mettre les portes avec le Hadès, et cela dans le contexte de la construction de l'Église. Si vous prenez porte à part, si vous prenez le Hadès à part, vous ne pourriez pas comprendre ce que le Seigneur a voulu nous dire. Donc le Hadès, puisque c'est le lieu où il y a toutes sortes de pouvoirs, toutes sortes de puissances judiciaires, économiques, politiques et tout cela, eh bien nous pouvons dire que lorsque le Seigneur parle des portes du Hadès qui n'allaient pas prévaloir contre son Église, il veut parler de toutes ces forces des ténèbres. Il veut parler de toutes ces forces du mal. Il veut parler de ces dominateurs d'ici-bas, de tous ces esprits impurs, de tous ces principautés, mes amis, eh bien, qui sont hostiles, non seulement à Christ, mais aussi à l'œuvre qu'il a le plus cher ici-bas, à savoir son Église. En parlant des portes du Hadès, il veut parler donc de toute cette puissance diabolique, tous ces démons, tous ces esprits impurs. Ça nous montre alors que l'Église, depuis son commencement, est engagée dans un combat spirituel. L'Église, depuis le commencement, fait l'objet de toutes sortes d'attaques incessantes de la part des forces du mal, de puissances de ténèbres. Pour mieux comprendre ce que je dis, essayez de vous imaginer le monde entier comme étant une cité avec des portes qui toutes donnent vers le séjour des morts. Et qui sont à ces portes-là? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait tout pour empêcher aux gens de descendre là-bas. Voyez-vous? Donc, ces forces du mal occupant toutes ces portes-là, leur travail, c'est faciliter les gens à aller tout droit dans le Hadès. Tout droit. Où que vous soyez, comme avec Jérusalem, il y avait diverses portes. Il y a plusieurs portes, peu importe. Mais ce sont les mêmes, les hôtes de l'enfer. C'est la pieuvre des abysses qui étend ses tentacules sur cette cité que le monde. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, écrivant à ses lecteurs, 1 Jean chapitre 5, verset 19, il dit... Et nous savons que nous sommes de Dieu. Quelle bonne nouvelle. et que le monde entier gît dans le malin. Littéralement, oui. Gît sous l'emprise du malin. Vous connaissez ce verbe? Ça, c'est le verbe conjugué. Quel est son infinitif? Jésir, en effet. Donc, le verbe jésir veut dire quoi? C'est être couché. C'est comme ça qu'à l'époque, sur certaines tombes, on voyait sigi. Ici est couché. Vous voyez? Donc, pour dire, voilà, il y a un mort qui est couché pour l'éternité. Hein? Donc, le monde entier gît dans le malin. Le monde entier sous la domination de Satan. Le monde entier, mes amis, eh bien, est sous l'emprise des puissances démoniaques. Donc, ça veut dire que l'évangélisation, nous devrions l'envisager sous l'angle d'un combat spirituel. Nous allons sur un terrain déjà miné. Nous nous attaquons à des forces qui maintiennent les gens dans cet état d'esclavage et de mort. Ce sont des forces funestes, mortifères, qui crassent la mort partout, qui détruisent les vies. L'évangélisation, c'est plus que donner des informations aux gens. Jésus vous aime, venez, acceptez-les. Oh, alléluia. Alors, quelquefois, les gens viennent. Bien, allez, reçois Jésus. Ferme les yeux. Jésus, je te reçois. Jésus, je te rejoins. Pardonne-moi, Seigneur. Quelquefois, l'homme accepte ça parce que c'est une belle fille qui lui parle. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant le Jésus qu'on lui a présenté, mais c'est la personne qui lui présente Jésus. Voilà, après, ah, ma sœur, comme ici tout le monde est sœur, tout le monde est frère, ah, ma sœur, il faudra que tu me suives, hein. Tu habites où? Et puis la sœur naïve, ah, je suis sur Massikita. Et puis un jour, on voit quelqu'un débarquer. Ce sont des gens comme ça qui viennent. Et quand ils arrivent, ils trouvent une bonne ambiance. Ils trouvent des gens merveilleux. Regardez comment ils sont habillés. Elle me coûte cher, donc les frères candidats, attention. Bref, alors ils viennent, ils sont attirés par l'ambiance, par tout ce qu'il y a là, des gens gentils, etc. Et puis ils restent, et puis ils chantent, alléluia. Et après on leur colle l'étiquette des chrétiens. Le jour où nous prions pour les démons, voilà, il y a des manifestations démoniaques. Ah, mais il était chrétien possédé. Mais c'est vous qui dites qu'il était chrétien. C'est vous. Parce qu'on a vite conclu. Voilà. Oh, il a vomi. Ah, il a vomi des crabes. Et pourtant, il avait accepté Jésus. Oui, mais vous pensez qu'on accepte Jésus, c'est blanc. C'est plus. Vous voyez, mes amis, faisons très attention. Nous devons nous donner la peine de suivre les gens. Voyez-vous, il y en a qui arrivent et qui sont mouillés, simplement, par la vie de Jésus. Ils sont mouillés. Ils plongent et puis ils sortent. Ce n'est pas ça. Jésus veut, non pas qu'ils soient mouillés, mais qu'ils ouvrent leur cœur à lui. Que, comme Pierre a dit, non seulement le pied, mais aussi la tête. Eux, ils viennent, ils mettent les orteils seulement comme ça. Pour continuer à jouir de la vie. Vous voyez, un pied dedans, un pied dehors. Hein? C'est plus le dehors qui les intéresse. Alors nous, on a crié, ah là 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 là. Vous savez, nous, on a gagné un ministre. Oui, mais le ministre, il est venu parce qu'il a appris que celle qui était sa maîtresse lui a échappé. Alors, c'est une occasion de lui dire, il dit, non, non, on m'a parlé aussi de l'abord et je suis venu. Tant mieux qu'il vienne et qu'il reparte avec Christ. Nous devons être ouverts. Cherchez tous les sorciers. Amenez-le. C'est à l'église, ici, à la bonne, qu'ils comprendront que la sorcellerie est un danger pour leur vie d'abord. Pas pour nous. Moi, je n'ai pas besoin de... J'ai pas peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Christ a vaincu, il a dit, je bâtirai mon église. Vous êtes des éléments qu'il a introduits dans son église. Et il a ajouté, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Les puissances s'élèveront. Les démons s'élèveront. Ils se déchaîneront contre l'église par la persécution, par la souffrance, par toutes sortes de choses. Mais le Seigneur nous dit, prenez courage, persévérez, j'ai vaincu. À mon nom, vous vaincrez. Les portes du séjour des morts, ces puissances démoniaques, ce puissance que nous trouvons, que ce soit dans des domaines politiques qui prennent des décisions qui nous mettent en porte-à-faux avec notre foi, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les finances. Vous savez, les banques qui dirigent la finance internationale sont deux ou trois. Vous pensez que Dieu est dedans? Allez voir un peu ce que leur patron gagne. Ce n'est pas Dieu, c'est ça les portes du Hadès, dans tous ces pouvoirs corrompus qui aident les gens à aller tout droit dans le séjour de mort. Tout droit, hop! Hop! Combien sont partis, mes amis? On s'est lancé dans des affaires, ils se sont retrouvés dans des histoires à dormir debout. Et là, les hôtes des portes des ténèbres sont là, ils se frottent les mains, ils t'attendent au tournant. Et puis tu te retrouves à te compromettre. Et petit à petit, et puis jusqu'à ce qu'un jour la mort vous emporte. Oui. Non, nous devons faire très attention. Donc, nous avons parlé de deux portes, et nous allons terminer là. Porte, Hadès, il reste quoi? Prévaloir. Ah, le verbe prévaloir. Très bien. Prévaloir. En français, prévaloir, c'est prendre avantage. C'est l'emporter, n'est-ce pas? Le verbe grec, je veux revenir au grec pour essayer de nous permettre de comprendre. Le verbe grec utilisé en cet endroit et traduit dans nos versions françaises par prévaloir, est un verbe qui veut dire ceci, triompher dans une rencontre avec quelqu'un. Triompher. Voilà le verbe qui est utilisé ici. Certes, Jésus n'a pas parlé grec, ça vous le savez. Le Seigneur a parlé l'araméen. Ceux qui nous ont écrit, Matthieu a vécu avec lui, oui ou non? Matthieu nous prend un terme. Il choisit, il sait. Que nous dit-il? Eh bien, triompher dans une rencontre. Dites-moi un peu, quand on parle de triomphe, cela suppose qu'il y a eu quoi? Une bataille. Et un triomphe, c'est vaincre avec succès. C'est ça, triompher. C'est vaincre avec succès. C'est que le Seigneur veut dire littéralement, je bâtirai mon église et les portes du Hadès ne triompheront point contre elle. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Celui qui a triomphé, parce qu'à la croix, il a publiquement livré en spectacle toutes les puissances démoniaques, tous les hôtes qui occupent les portes du Sheol. Tous ceux-là ont été vaincus une seule fois à la croix et par la croix de Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, Paul, qui a expérimenté la victoire du Christ, a dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alléluia. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Mes amis, Jésus, en disant cela, il parlait de toute cette hostilité satanique, de toutes ces puissances de magie, d'occultisme, toutes ces puissances démoniaques qui allait se liguer contre son Église. Et ça a toujours été ainsi jusqu'à nos jours, et ça le sera jusqu'à la fin. Et encore plus, alors que nous nous approchons de son retour. Donc, ne vous étonnez pas que vous connaissiez des problèmes. Les hôtes des ténèbres sont là, mes amis. Les dominateurs des ténèbres d'ici-bas sont là. Ces gens ne sont pas contents que tu sois chrétien, que tu sois dans le ministère. Ils sont capables de tout faire pour te décourager, de tout faire pour te mettre le bâton dans les roues. Ces forces sont là, elles sont nuisibles, mes amis. Nous devons avoir le discernement et nous lancer dans un combat spirituel, en sachant que l'ennemi sera toujours notre ennemi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout baigne dans l'huile que le diable, quelque part, se serait fatigué de nous en disant, ah, bon, lui, il m'a tellement battu avec ses jeûnes et prières. Je vais les laisser un peu tranquilles. Non, hein. Lui ne prend pas de retraite. Pas du tout. Il n'a pas de répit, lui. Hein, il n'arrive pas à un moment, il dit, bon, je prends ma pension, Je vais chercher quelques démons un peu puissants.
Non.
Voyez-vous? Et l'Église a la mission. Je terminerai par là. Nous avons la mission de nous lever, d'aller pour investir toutes ces portes qui sont dominées par les forces du mal. Donc, pour terminer, sachons, mes amis, que le diable est là, il fait tout, les forces du mal sont là. Jésus nous a montré dès le départ que ce travail, c'est son service envers lui. Le travail dans l'Église, au travers de l'Église, ne se ferait pas sans difficulté. Donc, les portes du Sheol sont toujours actives. Voyez-vous, là en Occident, je peux vous assurer que s'il y a un domaine qui a été vraiment envahi, investi par toutes ces forces des ténèbres, eh bien, c'est le domaine politique. Vous avez suivi, que ce soit dans les médias, des décisions qui ont été prises pour légaliser le mariage homosexuel, voyez-vous, pour légaliser les avortements, ça on n'en parle même plus, c'est depuis toutes sortes de pratiques contre nature. Ça ne peut pas venir comme ça au hasard. C'est quelque chose de terrible. Ici, je parlais de manière générale, et demain, nous allons voir qui sont ces hôtes qui ont envahi, investi. Certes, nous parlons des démons de manière vague, et le livre de l'Apocalypse va nous apporter quelques lumières par rapport à tout cela. Amen. Donc, nous poserons la question, quels sont, ou qui sont, parce que je vous ai dit que ce sont des réalités dynamiques, qui sont ces portes du Hadès contre lesquelles l'Église est appelée à se battre, qui résistent au travail du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Demain, nous allons voir avec l'intercession pour consacrer un grand moment à la fin pour prier contre tous ceux qui se retrouvent comme emprisonnés. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui se débattent comme des insectes dans la toile d'araignée. Et effectivement, l'ennemi a tissé une toile démoniaque. Tout en ayant la vie, vous n'avancez pas. Comment voulez-vous avancer? Parce que la porte dans laquelle vous vous trouvez, même si vous avez la vie de Dieu, fait qu'il y a une telle toile d'araignée démoniaque qui t'empêche. Et demain, nous allons prendre la sécaille de l'esprit. Vous connaissez la sécaille, hein? Demain, nous allons prendre l'épée de l'esprit pour couper tout ça et permettre à chacun de nous de vivre calmement. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour la victoire de la croix. À Golgotha, tu as tout accompli. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, nous proclamons ton nom. Oh, nous disons que nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Maître. Merci, Jésus. Merci de venir les offrandes maintenant. Et de poser ta main sur, Seigneur, cet argent, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Nous arrivons donc à la fin de notre soirée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons toujours être aux aguets, mais sans pour autant verser dans la paranoïa. Hein. Donc, commencer à voir les hôtes des ténèbres partout. Et tiens, Zinzio, où est-ce que c'est? Soyons en paix. Il est avec nous. Il combat pour nous. Tu connais la situation de cette sœur qui est aux États-Unis, qui n'arrive pas à concevoir, Seigneur. Nous te prions de poser ta main sur elle en cet instant et de la visiter dans le nom de Jésus. Merci également de consoler la famille Badjoko. Seigneur, tu vois la douleur, l'affliction causée par le décès de leur cousin à Paris. Que tu poses ta main et que tu bénisses toute la famille. Merci pour les différents anniversaires, les différentes actions de grâce. Nous bénissons ton nom pour toutes choses, Seigneur. Et merci d'avoir été avec nous dans notre deuxième soirée. Merci pour toutes les vérités que nous avons apprises de toi et avec toi.
Et maintenant, Seigneur, donne-nous de les intégrer dans notre vie. Donne-nous de vivre une vie de victoire. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voici, oh Dieu, à la fin de notre deuxième soirée, dans le cadre de notre séminaire. Seigneur, nous voulons une fois de plus te remercier pour ta victoire sur les puissances des ténèbres, sur Satan, sur tous ces dominateurs des ténèbres d'ici-bas, ta victoire sur les différentes principautés spirituelles. Cette victoire, tu la partages avec nous, et en toi nous sommes plus que vainqueurs. Donne-nous de partir, Seigneur, avec une seule assurance, c'est que rien ne pourra nuire à notre vie, car tu es avec nous. Tu es pour nous et tu es en nous. Qu'alors ta victoire nous conduise et que ta victoire nous ramène demain. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Excellente soirée et au plaisir de vous revoir très nombreux demain à partir des 17h.